La parole parlée nos 78. Le communisme, le catholicisme et la chute de l'Amérique. Pasteur Brian Kozurek. Dans son sermon intitulé « La religion de Jézabel » du 19.03-61 qu'il a prêché à Middletown, Ohio, Frère Branham a averti les gens de ce qui arriverait s'ils rejetaient le message. 96 Quand Dieu envoie un message et l'annonce aux gens, et qu'ils n'aiment et le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et envoie ses fléaux, la famine et la mort spirituellement parlant. Physiquement aussi. Vous guettez une dépression ou crise économique, trad. Mon frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose? Attendez juste après quelque temps. Vous n'avez encore rien vu. Vous croyez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel? Attendez après un instant. Attendez seulement d'avoir vraiment très envie d'entendre la parole de Dieu. Sester ce que dit la Bible. Il y aura une famine dans les derniers jours, a dit le prophète. Pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Mais on fera taire cette voix dans le désert quelque part. Elle sera cachée. Ce soir, je voudrais vous montrer comment le communisme fait partie de la malédiction qui est tombée sur cette nation parce qu'elle a rejeté la voix de Dieu pour cette génération. Maintenant, nous savons d'après les Écritures que l'Amérique et les autres nations sont en train de couler financièrement parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu pour cette heure. Dans Deutéronome 28, nous voyons comment les bénédictions de Dieu se changent en malédictions sur toute nation, ou peuple, qui n'écoute pas la voix de l'Éternel. Écouter veut dire prêter très attentivement attention, et il est très évident, par la législation en cours dans ce pays, qu'ils se sont détournés de Dieu et de sa voix pour cette génération. Maintenant, il est important de le savoir, parce que la malédiction pourrait être renversée. Seulement si les gens se détournaient de leur mauvaise voie, écoutaient et prêtaient très attentivement attention au message de l'heure, ce qui est la voix de Dieu pour cette génération. Car le Seigneur lui-même est descendu avec un cri et nous savons que le cri, c'est le message. La pluie de la première et de l'arrière-saison 3 mars 1960-47. L'ennemi attend la nuit pour venir. Il aime venir la nuit. Les grands raids de nos armées aujourd'hui se font la nuit. 48 Sester ce que vous parlez du communisme. Le communisme attend une chose. Nous en entendons tellement parler aujourd'hui. Le communisme veut une seule chose. La nation en est remplie, mais il attend ce que ce peu de spiritualité que nous avons s'éteigne nécessairement, jusqu'à ce que l'Église soit dans l'obscurité. C'est seulement de cette façon que cela peut frapper. Que les Américains qui proclament être des chrétiens se lèvent au nom du Seigneur, qu'ils crient, le communisme n'aurait aucune place. Mais nous, nous entrons droit dans cela et nos églises en sont même pleines. Assurément partout. 49 La chose entière est polluée. Le corps entier est pollué. Il n'y a qu'une seule chose saine et une seule fondation. C'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ se trouve le seul rocher du salut que je connaisse. Le seul moyen d'échapper, c'est au travers de Jésus-Christ. Il est celui-là. Donc vous voyez qu'il existe une voie de sortie. Mais l'Amérique prendra-t-il cette voie pour sortir de cette crise? Est-ce ce qu'il le fera? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il pense être riche. S'être enrichi. Et Néhémie sait même pas qu'il est malheureux, misérable, pauvre, et nu. Et Néhémie le sait même pas. Alors, comment peut-il se repentir alors qu'Néhémie pense même pas qu'il doit se repentir de quelque chose? Mais là quelque chose dont il doit se repentir, et sa condition le montre aussi. Mais Néhémie peut pas le voir. Alors, il Néhémie fait rien si ce n'est Esther sans arrêt la même chose. Vous savez, c'est Esther le signe d'une aliénation mentale. Quand vous faites la même chose sans arrêt, pensant que, d'une façon ou d'une autre, cela changera quelque chose si vous le faites. Il s'Esther lui-même créer des ennuis en dépensant de l'argent qu'il Néhémie possède pas. Et maintenant, il pense qu'il va se tirer d'affaire, en dépensant même plus d'argent qu'il Néhémie dispose. C'est Esther une chose incroyablement stupide. Mais nous sommes avertis qu'au temps de la fin, les seules personnes douées d'une pensée saine sont ceux qui ont la pensée de Christ. Et nous voilà. Et le seul moyen d'échapper, c'est Esther à travers Jésus-Christ, c'est Esther ça. Ainsi, entrez en Christ pendant qu'il est Esther encore temps. Et repentez-vous de toutes vos mauvaises voies. Et admettez que sans Christ vous êtes perdus. Dans son sermon Israël à la mer Rouge, numéro 2, 27 mars 1953-57 maintenant, nous arrivons à la dernière plaie. Les dernières choses. Dieu dit, j'ai assez plaisanté maintenant. Je vais donner la dernière plaie. Maintenant je voudrais que vous remarquiez, la dernière plaie était la mort. 58 maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des guerres et des bruits de guerre, nous avons eu des raz-de-marée, comme Jésus a dit qu'il y en aurait, la mer grondant, le cœur de l'homme défaillant, encore plus de maladies de cœur, la maladie numéro 1, la peur, la perplexité du temps, la détresse parmi les nations, des équipages sans chevaux sur des larges chemins. Toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie c'est Esther la mort. Pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant. 59 la mort, spirituellement, dans l'Église. Vous remarquez que c'était parmi les fils, la mort spirituelle. L'Église a plus de membres qu'elle n'en a jamais eu. Elle se développe mieux que jamais auparavant, et cependant plus faible en esprit que jamais auparavant. C'est Esther vrai. C'est Esther tout à fait comme il en était en Égypte. Israël à la mer Rouge numéro 2-28 mars 1953-55, puis Dieu, après s'être occupé de Moïse, après l'avoir préparé, envoya les signes, et le dernier signe que nous avons vu hier soir était la mort. Et nous avons découvert que c'est Esther la mort spirituelle dans l'Église, la dernière plaie maintenant, l'Église se desséchant, est-on vaincue? C'est Esther vrai. Nous vivons dans un temps horrible. Comment l'Église, les anciens qui avaient l'habitude d'avoir réellement la victoire. Esther perdante, c'est Esther un temps d'agonie, il laisse le sang s'effacer de devant la porte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Maintenant, il est Esther très évident que cette septième plaie Esther la mort spirituelle, et comme nous le voyons, selon ce que frère Branham devait dire du communisme, c'est Esther que c'est Esther, déjà ici, qu'à cette époque-là, cette nation en était déjà remplie, mais que cela attendait simplement la mort spirituelle de cette nation avant que cela Néhémie soit mis en marche. Le communisme attend une chose. Nous en entendons tellement parler aujourd'hui. Le communisme veut une seule chose, la nation en Esther remplie, mais il attend ce que ce peu de spiritualité que nous avons s'éteigne nécessairement, jusqu'à ce que l'Église soit dans l'obscurité. C'est Esther seulement de cette façon que cela peut frapper. Frère Branham a prédit en 1956 que l'Amérique rejetterait Christ. Et tous les chiffres montrent que, depuis ce jour-là, cette nation s'est éloignée de plus en plus de Christ. Le 17 juin 1963, la Cour suprême des États-Unis a conclu que toute récitation, dans les écoles publiques, de la Bible ou de la prière est à considérer comme anticonstitutionnel. Dans Wikipédia, l'affaire Roe contre Wade, 410 États-Unis 113, 1973. Esther, un procès de la Cour suprême des États-Unis qui a eu pour résultat une décision qui fait date en matière d'avortement 1. D'après la décision Roe, la plupart des lois contre l'avortement aux États-Unis ont violé le droit constitutionnel à la vie privée, sous les clauses de sauvegarde des libertés individuelles, du 14e amendement. La décision a rejeté toutes les lois étatiques et fédérales déclarant illégal ou limitant l'avortement, et qui étaient contraires à son décision. L'affaire Roe contre Wade est l'un des procès les plus controversés et les plus significatifs, politiquement parlant, de l'histoire de la Cour suprême des États-Unis. L'affaire, moins connue, Doe contre Bolton, qui va de pair, a été tranchée au même moment de la décision Roe contre Wade dit, de façon centralisée, qu'une mère peut avorter de sa grossesse pour n'importe quelle raison, avant le moment où le fœtus devient viable. La Cour suprême a défini viable comme étant potentiellement capable de vivre en dehors de l'utérus de sa mère, quoique assisté artificiellement. La viabilité est généralement située à 7 mois environ, 28 semaines, mais elle peut se produire plus tôt, même à 24 semaines. 1. La Cour suprême a également dit que l'avortement après la période de viabilité doit être possible quand cela se révèle nécessaire pour protéger la santé de la femme, que la Cour suprême a largement défini dans le procès, de même nature, Doe contre Bolton. Ces décisions ont influé sur les lois de 46 États. 3. Maintenant, j'aimerais vous lire un article écrit par Chuck Morse imprimé le vendredi 9 mai 2003. Intitulé L'objectif communiste. Congressional Record, journal officiel du Congrès américain, appendice. Pp. A34-A35, le 10 janvier 1963. Les objectifs communistes actuels. Développement des remarques de Hon. A. S. Erlon. Jérémy. De Floride, à la Chambre des représentants, jeudi 10 janvier 1963. Monsieur Erlon. Monsieur Speaker. Madame Patricia Nordman de Deland. En Floride. Esther, une fervente opposante, qui s'exprime bien, du communisme, et qui, jusqu'à récemment, publiait le Deland courrier qu'elle a dédié au grand public, pour le mettre en garde contre les dangers que représente le communisme en Amérique. À la demande de Madame Nordman, j'inclus dans le Congressional Record, selon un consentement unanime, l'appendice suivant les objectifs communistes actuels, qu'elle identifie comme un extrait de Tonacette communiste, le communiste à nu ou tout nu, écrit par Cléonce Cousen, extrait de Zonekid communiste, écrit par Cléonce Cousen, les objectifs communistes actuels, 1. Acceptation, DSA, de la coexistence pacifique, comme étant la seule alternative à la guerre atomique. 2. La volonté, DSA, de capituler plutôt que de s'engager dans la guerre atomique. 3. Créer l'illusion que le désarmement total des États-Unis serait une démonstration de force morale. 4. Permettre le libre-échange entre toutes les nations indépendamment d'affiliation communiste et indépendamment du fait que les articles échangés pourraient être utilisés pour la guerre. 5. Prorogation des prêts à long terme accordés à la Russie et aux satellites soviétiques. 6. Fournir l'aide américaine à toutes les nations indépendamment de la domination communiste de celle-ci. 7. Accéder à la reconnaissance de la Chine communiste. Admission de la Chine communiste à l'ONU. 8. instauré l'Allemagne de l'Est et celle de l'Ouest comme des États séparés malgré la promesse de Khrouchtchev faite en 1955 de régler la question allemande par des élections libres sous la supervision de l'ONU. 9. Prolonger les conférences pour le désarmement, pour interdire les essais atomiques, parce que les États-Unis ont accepté de suspendre leurs essais aussi longtemps que les négociations sont en cours. 10. Permettre une représentation personnelle à l'ONU de tous les satellites soviétiques. 11. Promouvoir l'ONU comme étant le seul espoir de l'humanité. Si sa charte est réécrite, exiger qu'elle soit conçue comme un gouvernement unique mondial avec ses propres forces armées indépendantes. Certains chefs d'État communistes pensent qu'on peut prendre le contrôle du monde aussi facilement par l'ONU que par Moscou. Parfois, ces deux centres se rivalisent comme ils le font en ce moment au Congo. 12. S'opposer à toute tentative d'interdiction du Parti communiste. 13. Abolir tout serment de loyauté. 14. Continuer à donner à la Russie l'accès à l'Institut national de la propriété industrielle des USA. 15. S'emparer d'un ou des deux partis politiques américains. 16. Utiliser les décisions techniques des cours et tribunaux pour affaiblir les institutions américaines élémentaires, en prétendant que leurs activités violent les droits civiques. 17. Prendre contrôle des écoles. Les utiliser comme courroie de transmission pour le socialisme et la propagande communiste actuelle. Assouplir le programme scolaire. Prendre le contrôle des associations d'enseignants. Mettre la ligne du parti dans les manuels scolaires. 18. Prendre le contrôle de tous les journaux estudiantins ou lycéennes. 19. Utiliser les émeutes estudiantines pour fomenter des protestations publiques contre les programmes ou les organisations qui font l'objet d'attaques communistes. 20. Infiltrer la presse. Prendre le contrôle de la critique, d'éditorial, et des positions de décision. 21. Prendre le contrôle des postes clés à la radio, à la télévision, et au cinéma. 22. Continuer à discréditer la culture américaine en dégradant toutes les formes d'expression artistique. Il a été dit à une cellule communiste américaine d'éliminer des parcs et des édifices toute bonne sculpture, et de les remplacer par des formes incompréhensibles, grossières, et informes. 23. Tenir les critiques d'art et les directeurs de musées. Notre plan est de promouvoir la laideur, un art dénué de sens et répugnant. 24. Éliminer toutes les lois qui régissent l'obscénité en les qualifiant de censure et d'une forme de violation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. 25. Faire tomber les principes de moralité en encourageant la pornographie et l'obscénité dans les livres, les magazines, les films, à la radio et à la télévision. 26. Présenter l'homosexualité, les décadences et le vagabondage sexuel comme normal, naturel et bon pour la santé. 27. Infiltrer les églises et remplacer la religion révélée par une religion sociale. Mettre en doute la Bible et mettre l'accent sur la nécessité de la maturité intellectuelle, qui n'a pas besoin d'une béquille religieuse. 28. Éliminer la prière ou toute phase d'expression religieuse dans les écoles pour le motif que cela viole le principe de la séparation de l'Église de l'État. 29. Discréditer la Constitution en la qualifiant d'inadéquate, de démodée, en déphasage par rapport aux besoins de modernité, un obstacle à la coopération entre les nations et l'échelle mondiale. 30. Discréditer les pères fondateurs des États-Unis. les présentait comme étant des aristocrates égoïstes qui ni se préoccupaient pas de l'âme du peuple. 31. Déprécier toutes les formes de culture américaine et décourager l'enseignement de l'histoire américaine pour le motif que ce n'était qu'une partie secondaire du grand tableau. Mettre l'accent sur l'histoire de la Russie depuis que les communistes ont pris le pouvoir. 32. Soutenir tout mouvement socialiste pour avoir le contrôle centralisé sur n'importe quelle partie de l'éducation culturelle, des services sociaux, des programmes sociaux, des centres médico-socio-psychiatriques, etc. 33. Éliminer toutes les lois ou procédures qui gênent le fonctionnement de la machine communiste. 34. Éliminer le House Committee, commission nationale, chargée d'enquêter sur les activités non américaines. 35. Discréditer le FBI et finir par le démanteler. 36. Infiltrer et prendre le contrôle d'autres syndicats. 37. Infiltrer et prendre le contrôle des grandes entreprises. 38. Transférer certains pouvoirs de la police, de procéder à une arrestation, aux services sociaux. Traiter tous les problèmes de comportement comme étant des désordres mentaux que seuls les psychiatres peuvent comprendre ou traiter. 39. Dominer la profession psychiatrique et utiliser les lois sur la santé mentale comme un moyen d'avoir un contrôle coercitif sur ceux qui s'opposent aux objectifs communistes. 40. Discréditer la famille en tant qu'institution. Encourager le vagabondage sexuel et le divorce facile. 41. Mettre l'accent sur le besoin d'élever les enfants loin de l'influence négative des parents. Attribuer les détriments, les blocages mentaux et le retardement des enfants à l'influence répressive des parents. 42. Créer l'impression que la violence et l'insurrection sont des aspects légitimes de la tradition américaine, que les étudiants et les groupes d'intérêts spéciaux devraient se lever et unir leurs forces pour résoudre les problèmes économiques, politiques ou sociaux. 43. Renverser tous les régimes coloniaux avant que les populations autochtones Némi soient prêtes à s'autogouverner. 44. Internationaliser le canal de Panama. 45. Annuler la Connally Réservation, réserve conventionnelle ou clause restrictive de ce nom, afin que les États-Unis Némi puissent pas empêcher le tribunal mondial de porter un litige devant leur juridiction pour des problèmes intérieurs nationaux. Donne au tribunal mondial la juridiction sur les nations tout comme sur les individus. Christ est révélé dans sa propre parole MDO 2.08.96541 remarqué. Nous en revenons donc au fait qu'il nous faut avoir quelque chose à quoi nous accrocher. Il doit y avoir quelque chose qui estère un point d'attache. Autrement dit, c'estère un point de référence finale. Et chacun doit avoir un point de référence finale, ou un absolu. J'ai prêché là-dessus il y a des années, sur un absolu, un endroit où se trouve le dernier mot. S'estère comme l'arbitre dans un jeu de ballon, s'il dit que s'estère une prise, s'estère exactement ce que s'estère. Peu importe comment vous l'avez vu, l'arbitre dit que s'estère une faute. 42. Vous dites, ce n'était pas une faute. Il partit. J'ai vu là. Peu importe ce qu'il en estère, une fois qu'il a dit, faute. S'estère ça. S'estère réglé, un point, s'estère tout. Il estère le point de référence finale. Et la signalisation lumineuse estère un point de référence finale dans la circulation. Si elle dit, partez, vous dites, bon sang, je suis pressé, j'ai, non, elle dit, restez là encore pendant que l'autre usager passe. Voyez? Sester le point de référence final. 44. Or, il doit y avoir un point de référence final à tout ce que vous faites. Il devait y avoir un point de référence final lorsque vous avez choisi votre épouse. Il devait y avoir une femme que vous deviez choisir. 45. Quand vient le moment d'acheter une voiture, il doit y avoir un point de référence final pour votre choix. Est-ce que ce sera Ford? Chevy? Plymouth? Une voiture importée? Peu importe, vous devez avoir un point de référence final. Et il en est de même de la vie chrétienne. Il doit y avoir un point de référence final. Maintenant, nous découvrons que Frère Branham nous dit ici qu'il est vital que nous ayons un absolu. Comme je l'ai dit, mercredi soir, je crois que le manque d'absolu est la raison qui fait qu'il y a tant de chaos dans ce pays aujourd'hui, parce que c'est exactement ce qui se passe quand vous n'avez pas un absolu, il en résulte le chaos. La branche législative de notre gouvernement a été constituée pour établir les lois et la branche judiciaire a été créée pour contrôler l'application de ces lois et appliquer ces lois. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout le monde veut jouer le législateur, et dans la branche judiciaire, nous avons vu que les cours et tribunaux et d'autres branches judiciaires du gouvernement ont décidé qu'ils peuvent fabriquer leurs propres règles, à leur guise, et n'aient pas respecté les règles existantes. Le BAF, le FBI, la CIA et les autres services d'application de la loi, y compris l'IR, ont été pris de folie furieuse en inventant leurs propres lois ou en changeant les lois existantes sans l'accord législatif approprié, qui doit émaner de ceux qui furent élus pour représenter le peuple. Et nous avons vu que les tribunaux judiciaires, la Cour suprême des États-Unis en arrivent au point où ils ont décidé d'être les interprètes de ces lois, et ce faisant, ils ont changé le sens de ces lois. Au lieu du droit à la vie, ils ont donné leur consentement au droit de tuer des enfants innocents à naître. Comme nous considérons ce sujet, à savoir n'avoir un absolu par rapport à ce qui est arrivé à ce pays, suite au fait de n'aimer pas avoir d'absolu, je voudrais maintenant continuer avec cette pensée. Et comme nous avons amené nos pensées au point où l'éducation est ce qu'elle est dans ce pays, sans un absolu pour la guider, je pense que ce serait une bonne idée de nous attendre sur cette pensée aujourd'hui. Par conséquent, ce matin, je voudrais examiner la pensée de l'absolu dont parle Frère Branham et pourquoi il est si nécessaire d'enseigner nos enfants et d'instruire nos enfants sur la nécessité d'avoir cet absolu dans leur vie. Deutéronome 6, 4-9, version du roi Jacques, 7, vie tu les feras comprendre à tes enfants. Parle-en quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras le long de la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Cette version amplifiée, ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront d'abord dans la pensée de ton cœur. Ensuite tu les aiguiseras et les affineras, pour ainsi, avec zèle, les faire pénétrer, les enseigner et les faire comprendre dans les pensées et dans les cœurs de tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et donc, nous voyons que pour agir ainsi, il devait placer des images, des écritures et toutes sortes de choses que les enfants allaient inévitablement voir, des yeux, et quand ils les voient, des yeux, elles auront une influence dans leurs pensées et dans leur cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire véridique d'une petite fille qui rentrait de l'école un jour, quand un homme s'approcha d'elle. Je veux que vous remarquiez comment elle fut capable de sortir victorieuse de cette situation. Et j'espère que, par cette histoire, vous verrez de quelle façon et pourquoi vous devez donner à vos enfants la bonne instruction à la maison. Un prêtre demanda à une jeune fille de venir suivre son enseignement religieux, Celle-ci refusa en disant que c'était contre les désirs de son père. Le prêtre lui a dit qu'elle devait lui obéir à lui et pas à son père.
« Oh, monsieur, on nous enseigne dans la Bible, honore ton père et ta mère.
Ce n'est pas à toi de lire la Bible, » dit le prêtre.
« Mais monsieur, notre sauveur a dit, sondez les Écritures, Jean 5h39,
c'était seulement aux Juifs, et pas aux enfants.
Et tu n'es aimé le comprends pas ?» répondit le prêtre.
« Mais monsieur, Paul a dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, de Timothée 3h15.
Oh ! Dit le prêtre.
Timothée fut formé pour être un évêque, et il fut enseigné par les autorités de l'Église.
Oh ! Non ! Monsieur ! Dit l'enfant.
Il fut enseigné par sa mère et sa grand-mère.
Sur ce, le prêtre se détourna en disant qu'elle connaissait assez la Bible pour empoisonner une paroisse.
Ézéchiel 44, 23-24.
Exode 20, 3 nous dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »
Qu'est-ce que ça signifie ?«
Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »
Qu'est-ce que ça signifie n'aimer pas en avoir d'autres ?
Qu'est-ce que Dieu essaie de faire comprendre au peuple en disant pas d'autre ?
Il nous fait savoir que, lui, il l'Esther,
Dieu,
qu'il Esther le seul et qu'il n'y a personne qui lui soit comparable.
Il n'y a personne d'autre qui soit digne de notre adoration,
parce que le mot Dieu signifie un objet d'adoration.
Et il nous dit qu'une Néhémie peut pas en avoir d'autre.
En d'autres termes, il Esther le point de référence final,
il Esther notre absolu et il Néhémie peut y avoir d'autres absolus.
Et pourtant, nous découvrons selon Jean 1, un que Dieu Esther la parole.
Et nous savons que la Bible nous enseigne que l'homme Esther, selon les pensées de son cœur, et s'Esther de l'abondance du cœur, que la bouche parle et qu'alors la parole de Dieu Esther est Dieu pour nous.
La parole de Dieu nous fait connaître qui l'Esther, et par conséquent, la parole Esther qui l'Esther.
Et donc nous découvrons alors que la parole de Dieu Esther notre Dieu,
et aucun autre Dieu et aucune autre parole Néhémie sont reçus comme étant la vraie adoration.
Jésus lui-même a dit, Dieu est esprit,
et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.
Et donc sans la vérité, vous Néhémie pouvez pas adorer Dieu.
Et qu'est-ce que la vérité?
Dans Jean 17h17, Jésus priait Dieu, son Père en disant, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est-elle la vérité.
Sa parole est-elle alors notre absolu et notre point de référence final?
Et c'est-elle ce que nous devons comprendre de ce que frère Branham nous apporte alors que nous lisons les prochains paragraphes?
Le système pédagogique de notre pays a touché le fond parce qu'en tant que nation, nous sommes tellement de la Odyssée dans notre approche.
Et vous dites, que voulez-vous dire par ça?
Ce que je veux dire,
c'est comme nous sommes riches et nous sommes enrichis,
nous pensons que l'argent est la réponse à tous nos problèmes.
Si nous avons un problème social,
que faisons-nous?
Nous y mettons l'argent.
Pourquoi?
Parce que nous sommes une nation si paresseuse.
L'enfant moyen reçoit plus de $400 en habits à chaque rentrée scolaire, et -0 fois, rien pour habiller leur pensée de la vérité,
et de la juste sagesse pour se protéger des idées libérales mensongères.
Deutéronome 4, 8-10, Matthieu 5h19, Psaume 86, 11, 90, 12, 143, 10, Esaïe 28. 9. C'est-à-dire pourquoi
notre système pédagogique est pris d'une crise de folie furieuse.
Parce que les syndicats des enseignants contrôlent ce qui est enseigné et ils n'ont pas de véritable absolu.
Et ainsi les enseignants imposent le programme des syndicats libéraux.
Et cela a créé le chaos dans la société américaine.
Aujourd'hui, certains enfants, sortant des écoles publiques et Néhémie sachant même pas lire, obtiennent leur baccalauréat. Cette nation dépense plus d'argent par étudiant que toutes les autres nations du monde. Pourtant, nous sommes les derniers en termes de la valeur de l'enseignement par dollar dépensé, et même derrière le plus bas pays du tiers-monde. Et si vous avez de bons enseignants qui essaient d'apprendre aux enfants à apprendre, ils seront exclus par les autres membres du corps enseignant et le syndicat Néhémie les soutiendra pas, parce qu'il Néhémie respecte pas le manifeste syndical. En fait, le manifeste de la Fédération nationale des enseignants pour les années 1995 et 1996 et le manifeste dans lequel le programme homosexuel a commencé à se faire valoir comme étant une mode de vie acceptable dans les écoles. L'Union syndicale des enseignants de la Californie a publié un calendrier d'événements pour cette année et parmi ces événements figure la semaine de l'entrée d'une jeune fille dans le monde et la semaine de la sensibilisation du sida et quelques fêtes hindoues. Mais ce calendrier a omis Thanksgiving Day, jour d'action de grâce, fête nationale américaine célébrée le 4e jeudi de novembre, et Noël. Ceci montre qui a pris la direction des écoles. Cet ancêtre incarné dans les gens et s'est emparé de la pensée des gens, tout comme la présence de Dieu s'est incarné dans son prophète en cette heure et s'empare de la pensée de son peuple, de ses élus. Psaume 111, 10. Proverbe 1, 7. 9h10. Maintenant nous savons tous que ce sont les effets d'une société impie. Mais saviez-vous que l'Église catholique, à travers la Société de Jésus, l'Ordre des Jésuites, planifie de s'emparer de la pensée de cette nation depuis environ 100 ans ou plus? Je possède sept livres qui parlent explicitement de ce sujet et un seul d'entre eux a été écrit ces toutes dernières années et ce, par un fervent catholique, Malachi Martin. Les autres livres sont très anciens, et en fait, trois d'entre eux ont été écrits vers le début du siècle. Le pape Pius IX a dit dans son encyclique 45, l'Église catholique romaine a le droit de s'immiscer dans la matière d'enseignement des écoles publiques, et dans les préparatifs de l'ensemble des cours des écoles publiques, et dans le choix des enseignants pour ces écoles. Le pape Pius IX, encyclique 47, l'éducation, en dehors du contrôle de l'Église catholique, est une hérésie dangereuse. Les écoles publiques ouvertes à tous les enfants, pour l'enseignement des jeunes doit être sous le contrôle de l'Église catholique et Néhémie doit pas dépendre du pouvoir civil, ni se conformer aux opinions de l'âge. Citation d'un prêtre catholique dans le Boston Advertiser, un journal, les catholiques Néhémie seront pas satisfaits des écoles publiques, même si la Bible protestante et tout vestige d'enseignement religieux en était été banni, mais l'Église catholique, depuis 1850, essaye d'obtenir du gouvernement un financement pour ses propres écoles, et ils sont prêts à tout pour encaisser l'argent de nos impôts. Voici un échantillon de la manière dont ils ont autrefois utilisé les médias pour prôner ce financement des écoles catholiques par les impôts. Le New World, journal officiel de l'archidiocèse de Chicago, le 6 février 1904. Toute école qui assume le travail de l'enseignement de façon à satisfaire les exigences de l'État dans toutes les branches laïques de l'enseignement, est en droit de recevoir le soutien de l'État, peu importe la dénomination religieuse à laquelle appartiennent les chefs d'établissement. En toute justice, alors, aux établissements religieux, s'ils donnent la même quantité d'enseignement laïque comme les autres, alors, ils ont droit au même soutien pour l'enseignement laïque qu'ils donnent. Pourquoi pas? À l'exception du bigot irrationnel. Tout homme peut-il voir pourquoi il devrait être traité pareillement? Si, en plus de l'enseignement laïque exigé par l'État, les établissements religieux enseignent également la religion, parce que les parents le veulent, l'État Néhémie peut s'y opposer. Parce que l'État Néhémie paiera pas l'enseignement religieux, mais seulement l'enseignement laïque. Prenons position à cette tribune. À salaire égal. Travail égal. Cela offre, me semble-t-il, au peuple des États-Unis, la solution la plus juste sur la question de la scolarité. Revenons au début du XXe siècle. Le cardinal McCloskey a dit, nous devons participer aux élections. Prendre les choses en main, en une majorité unanime, dans chaque État contre le parti engagé à soutenir l'intégrité des écoles publiques. Le président Garfield dans sa lettre d'approbation, le 12 juillet 1880 a écrit, la chose importante, après la liberté et la justice, c'est l'éducation populaire, sans laquelle ni la liberté ni la justice n'aimi peuvent être constamment maintenues. Il serait injuste envers de notre peuple, et dangereux pour nos institutions, d'utiliser une quelconque portion des recettes de la nation, ou de l'État, pour soutenir des établissements sectaires. La séparation de l'Église de l'État, relativement aux impôts, devrait être absolue. Le général Grant des Moissons, 1876, encourageait les établissements libres et résolvait que pas un seul dollar leurs affectés némis soit utilisé pour soutenir un établissement sectaire. Maintenant, ce que j'essaie de nous faire comprendre ce matin c'est ceci, depuis, disons, plus de 100 ans, l'Église catholique essaye de détruire les établissements publics en Amérique et ils ont fini par l'emporter. Le révérend Jeremiah Crowley, ancien prêtre originaire de Cincinnati, dans son livre Le catholicisme, une menace pour la nation, écrit en 1912, a fait la déclaration suivante, j'affirme que c'est l'objectif établi de la grande majorité de la hiérarchie catholique romaine en Amérique, de détruire, racines et branches, le système actuel des écoles publiques en Amérique. Je crois que le projet catholique de destruction des écoles publiques américaines a, parmi d'autres, ces étapes-ci, 1. Amener l'école publique à être méprisée en la dépeignant comme un pis, mal acquis faisant, et un cloaque de corruption. 2. Obtenir, pour l'école paroissiale catholique, la plus grande part possible des fonds, provenant des impôts, affectés aux écoles publiques. 3. Encourager d'autres groupes à commencer des écoles sectaires et à exiger les deniers publics pour payer la formation laïque des enfants. 4. Obtenir une majorité de catholiques parmi les conseils d'administration des écoles publiques et parmi le corps enseignant des écoles publiques, dans l'espoir d'être ainsi, capable de rabaisser le niveau de l'enseignement et de la discipline dans les écoles publiques, et ainsi, amener les écoles publiques à être mal acquis vues. 5. Obtenir que les nonnes et les moines soient employés comme enseignants des écoles publiques. 6. Empêcher la formation scolaire normale des enseignants de l'école publique. Par ces étapes, et par d'autres moyens, les ecclésiastiques catholiques espèrent détruire le système de l'école publique et rendre l'école paroissiale suprême. J'ai eu beaucoup de conversations avec des membres de la hiérarchie catholique américaine pendant les 18 dernières années au sujet des écoles publiques et paroissiales en Amérique. Les champions ecclésiastiques des écoles paroissiales ont déclaré que l'exigence pressante de la hiérarchie catholique pour un partage de l'argent des écoles publiques finirait par être accordée. Et que le peuple américain se lasserait du différend au sujet de l'école et pour y mettre fin le peuple américain adopterait l'opinion catholique. Qu'alors, tout effort serait produit pour se voir accorder les plus grosses subventions de l'argent public. Que les autres sectes, par jalousie, exigeraient des subventions similaires pour leurs différentes écoles, et ils seraient encouragés par les dignitaires catholiques à revendiquer avec insistance que la conséquence serait le bouleversement du système de l'école publique par la concurrence et l'antagonisme de tels organismes sectaires. et que le résultat final serait la suprématie de l'Église catholique dans l'enseignement laïque. En raison de sa forte organisation et de ses grandes ressources à travers ses différents ordres enseignants. Abraham Lincoln 1864. Le peuple voyait en temps les grandes roues bruyantes des voitures des États confédérés, pendant la guerre de sécession américaine, qu'il appelle Jeff Davis, Lee, Toan, Beauregard, Sem, etc. Et il pense sincèrement qu'ils sont la force motrice, la cause première de nos problèmes. Mais c'est une erreur. La vraie force motrice est cachée derrière les épais murs du Vatican, des facultés et des écoles jésuites, des couvents de nonnes et des confessionnaux de Rome. Il est un fait qui est par trop ignoré du peuple américain, et que j'ai découvert seulement depuis que je suis devenu président. C'est que les meilleurs, les plus grandes familles du Sud, ont été formées en grande partie, si pas entièrement, par des jésuites et des nonnes. D'où ces principes avilissants d'esclavage, d'orgueil, de cruauté qui sont comme une seconde nature parmi tant de ces gens. D'où cet étrange manque de franc-jeu, d'humanité, cette haine implacable des idées d'égalité et de liberté, comme nous les trouvons dans l'Évangile de Christ. Vous n'êtes pas sans ignorer que les premiers colons de la Louisiane, de la Floride, du Nouveau-Mexique, du Texas, de la Caroline du Sud et du Missouri, étaient catholiques, et que les premières personnes à les enseigner étaient jésuites. Il est vrai que ces États ont été depuis lors conquis ou achetés par nous. Mais Rome avait déjà injecté dans leurs veines, avant qu'ils n'aient mis, deviennent des citoyens américains, le virus mortel de ces maximes antisociales et antichrétiennes. Malencontreusement depuis lors, les jésuites et les nonnes sont, en grande partie, restés les enseignants de ces personnes. Ils ont continué, dans un silence, mais de façon plus efficace, à propager leur haine de nos institutions, de nos lois, de nos écoles, de nos droits et libertés, de telle façon que ce terrible conflit, entre le Nord et le Sud, est devenu inévitable. Comme je vous l'ai dit, auparavant, c'est au papisme, catholicisme romain, que nous devons cette terrible guerre civile. J'aurais ri de l'homme qui m'aurait dit cela avant que je devienne président. Mais le professeur Morse m'a ouvert les yeux sur ce sujet. Et, maintenant, j'ai vu ce mystère, je comprends cette ingénierie de l'enfer qui, bien qu'invisible, ni même suspectée par le pays, ont mis en marche les grandes roues, lourdes et bruyantes des voitures des États confédérés d'Amérique. Notre peuple n'est pas encore prêt à apprendre et à croire ces choses, et peut-être que ce n'est pas le moment convenable pour l'initier à ces obscurs mystères de l'enfer. Cela jetterait de l'huile sur un feu qui déjà est suffisamment dévastateur. Vous êtes pratiquement le seul avec qui je parle librement sur ce sujet. Mais tôt ou tard, la nation connaîtra la vraie origine de ces rivières de sang et de larmes qui partout répandent la désolation et la mort. Et alors, ceux qui ont causé cette désolation et ces désastres seront appelés à en répondre. Je n'ai émis prétend pas être prophète. Mais je vois un nuage très sombre à l'horizon de notre nation. Et ce nuage sombre vient de Rome. Il est rempli de larmes de sang. Il s'élèvera et grossira jusqu'à ce que ses flancs soient déchirés par un éclair, suivi d'un effrayant coup de tonnerre. Puis, un cyclone, tel que le monde n'a jamais vu, passera sur ce pays répandant ruines et désolation du nord au sud. Après que ce soit fini, il y aura de longs jours de paix et de prospérité, car le papisme, avec ses jésuites et ses inquisitions implacables, aurait été pour toujours balayé de notre pays. Ni moi ni vous, mais nos enfants verront ces choses. Le cardinal Martinelli, délégué papal en Amérique 1902, nous savons qu'il existe de nombreux prêtres et de nombreux évêques immortels. Mais les laïcs n'ont pas le droit d'empiéter sur le clergé. Si les laïcs comprennent qu'ils ont des droits, ils feront, en Amérique, ce qu'ils ont fait une fois en France pendant la Révolution, ils massacreront le clergé. Dans ce pays indépendant, il n'existerait pas sage de permettre aux laïcs de comprendre qu'ils ont le droit de s'immiscer dans les affaires de l'Église, et l'une des principales choses que nous avons contre vous, Père Crelet, c'est-à-dire que vous éclairez les catholiques laïcs de ce pays quant à leurs droits. Les laïcs n'ont pas le droit de dénoncer leur clergé, peu importe combien ils peuvent être immoraux. Les laïcs doivent être ignorés. Ils doivent être écrasés. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juin 2010. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.fr.